Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.
En ce jour, nous reconnaissons que ton nom est saint. Nous le célébrons, nous le sanctifions, nous le mettons à part, nous le déclarons et le proclamons spécial. Nous déclarons cheval non partant quand tous les autres noms sont classés. Ton nom est saint. Et nous voulons le sanctifier non seulement avec nos paroles, mais avec notre vie. Bénis cette heure qui va suivre. Permet qu'elle puisse servir à quelque chose, non pas à cause de nous, mais à cause de l'action de ton esprit. Ce matin, spécialement à 7 heures, nous te demandons une chose. Donne-nous le genre d'onction qui rend la prédication un exercice facile, où l'effort de l'homme a peu à faire, mais où l'action de l'esprit fait tout. C'est-à-dire, je n'ai jamais mesuré l'impact d'un message par les acclamations ou par les amen. Je l'ai souvent mesuré par l'action que ton esprit accorde dans les cœurs. Et c'est ce que je veux voir. Et cette action, des fois, elle est loin de nos regards et de nos yeux. Et pourtant, il n'y a pas moins d'action. Je prie que le message de ce matin soit un tournant dans la vie de quelqu'un. Réajuste la vie de quelqu'un, transforme la vie de quelqu'un, encourage quelqu'un à rester dans certaines choses qu'il ou qu'elle pratiquait, mais pourquoi pas aussi un changement radical dans la vie de quelqu'un d'autre. J'aurais voulu entendre l'exaucement pour te dire merci. Mais ce matin, ma foi est tellement grande que j'anticipe et je te dis merci d'avance. Car je sais que les jours, les semaines, les mois, les années, nous montrerons l'impact de ces messages. En ton nom, nous prions et nous disons amen. On peut acclamer le Seigneur. J'aimerais vous inviter avec moi à lire trois portions des Écritures. Nous lisons Éphésiens au chapitre 6, Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 6. Du verset 2 jusqu'au verset 3, Dieu voulant, les dimanches qui vont suivre, nous aborderons aussi le verset 4 pour être équilibré. Éphésiens 6, du verset 2 au verset 3, « Honore ton père et ta mère », et il écrit entre parenthèses, c'est le premier commandement avec une promesse, « afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre ». Et nous remontons à l'origine, quand la loi a été donnée, Décalogue, Exode au chapitre 20, et nous lisons le verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Nous ajoutons aussi, Exode toujours, chapitre 21, et nous lisons les versets 15 ainsi que les versets 17. Deux avertissements graves, pour ne pas dire gravissimes, qui démontrent la place que Dieu a accordée aux parents dans son cœur et qu'il voulait imposer aux enfants d'Israël. Celui qui frappera son père ou sa mère sera puni des morts. Et cette mort était faite par lapidation. Verset 17. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni des morts. Depuis plusieurs semaines, nous sommes en train de parler sur le thème la loi de l'honneur, une loi importante, mais négligée. La loi de l'honneur, une loi importante, mais négligée. Je vais juste, pour nous rafraîchir la mémoire, que nous puissions nous remettre d'accord sur le contenu de certains termes. Les termes honneur de le départ, nous avons dit cela, vous l'avez dit, considération, reconnaissant les vertus ou la valeur d'une personne. Considération qui reconnaît les vertus ou la valeur d'une personne. Nous avons dit aussi que l'honneur ou le fait d'honorer, c'était une marque d'estime particulière ou égard accordé à une personne ou à une chose. Et nous avons dit, soit dit en passant, ne pas les faire, serait un manquement grave. Donc, marque d'estime particulière ou d'égard accordé à une personne. Et à ce titre, quand on parle d'honorer, on veut dire traiter quelqu'un ou quelque chose avec un respect fervent. Traiter quelqu'un ou quelque chose avec un respect fervent. Mais toujours dans le sens de définir honorer, nous avons dit que honorer, c'était procurer à quelqu'un ou à quelque chose une considération associée de respect. Et nous disons que cette loi, elle est importante, mais elle est négligée. Le mot important veut dire dont les effets sont grands. Quelque chose qui est important, c'est quelque chose qui a des effets grands. Deuxièmement, quelque chose d'important, c'est quelque chose qui exerce une grande influence. Cette loi, elle a des effets, et des effets grands. Cette loi, elle exerce une grande influence. Mais important, ça veut dire aussi qu'il y a une grande valeur en elle-même. Et puis enfin, important veut dire qui se place ou doit se placer avant ou au-dessus d'autres choses. Elle est importante, cette loi. Mais nous avons dit, malgré son importance, elle est négligée. Qu'est-ce donc la négligence? La négligence, c'est le fait de ne pas accorder des soins, des valeurs ou d'intérêt nécessaire à quelque chose ou à une personne qui mérite. Ne pas accorder des soins, des valeurs ou d'intérêt nécessaire à quelque chose. Et là, l'idée, c'est que soit on n'accorde pas à cette chose ce qu'elle doit recevoir, ou on accorde peu, c'est-à-dire pas suffisamment. Négliger, c'est aussi omettre de faire quelque chose, parce qu'on ne le juge pas nécessaire. Et le fait de ne pas juger cela nécessaire peut être un acte soit volontaire ou un acte involontaire. Volontaire, c'est-à-dire moi-même, je m'engage. Je dis, je ne veux pas accorder de la valeur à cette chose. Mais il peut être, j'allais dire, un acte involontaire. Et quand c'est involontaire, la plupart des fois, c'est attaché à l'ignorance. Au manque des quantités et des qualités d'information. Dans Actes des Apôtres, chapitre 23, au verset 5, la Bible nous montre l'apôtre Paul qui néglige un homme, qui ne lui accorde pas l'honneur et la considération nécessaires. C'est le souverain sacrificateur. Cet homme a parlé, et il a même obligé ceux qui étaient là à donner un soufflet ou une gifle à l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul réagit, il injurie, dit « Sépulcre blanchi !» Et ceux qui étaient à côté lui ont dit « Ne sais-tu pas que c'est le souverain sacrificateur ?» Et lui-même, comme un peu pour se rétracter, il cite les Écritures. Il dit, pardonnez-moi parce qu'il est écrit, tu ne diras pas du mal du chef de ton peuple. Il a manqué d'accorder à cette personne l'honneur parce qu'il n'a pas su qui il était. Combien de fois nous négligeons, mais à cause de l'ignorance. Négliger, c'est aussi accorder à quelqu'un ou à quelque chose un rang inférieur en termes d'appréciation qu'il aurait dû avoir. Quatrièmement, négliger, c'est s'abstenir volontairement ou involontairement de prendre en considération quelque chose parce qu'on ne juge pas cela nécessaire. Et depuis plusieurs semaines, nous avons eu comme verset de base Romains chapitre 13 au verset 7 où l'apôtre Paul dit « Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, les tribus à qui vous devez les tribus, la crainte à qui vous devez la crainte, mais il termine en disant l'honneur à qui vous devez l'honneur. » Cela certifie, il y a des gens, il y a des choses auxquelles nous devons honneur. C'est un dû que nous devons leur donner. Ne pas le faire, nous nous mettons en porte-à-faux par rapport à Dieu et par rapport à ces personnes. Ce matin, nous voulons parler de l'honneur dû aux parents. L'honneur que les enfants doivent aux parents. Quatre choses importantes me frappent en lisant Exode chapitre 20, verset 12, quand Dieu donne cette loi. La première, c'est que cette loi d'honorer les parents fait partie du décalogue, fait partie des principes donnés par Dieu à son peuple au sortir de l'Égypte. Que Christ va plus tard répéter et que plus tard encore l'apôtre Paul va renforcer. J'aimerais que vous puissiez savoir, quand le peuple est sorti d'Égypte, Dieu a voulu modeler un peuple, leur donner comme une constitution. Voilà comment j'aimerais que vous puissiez marcher. Et là déjà, Dieu place la famille au centre. Voilà comment vous devez vous comporter. Je veux faire de vous un peuple et j'aimerais que vous puissiez avoir une identité. Et dans cette identité, il y a les traitements que les enfants accordent aux parents. Donc la première des choses, cette loi fait partie du décalogue. La deuxième des choses, c'est que cette loi d'honorer les parents, cela est étonnant, vient directement après que Dieu ait d'abord placé ses propres intérêts. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain, tu sanctifieras, et directement après, Dieu place les parents. Avant même de toucher les prochains, parce que les autres lois qui viennent après ont affaire à l'homme par rapport à son prochain. Tu ne convoiteras pas, tu ne diras pas de faux témoignages, mais directement après qu'il ait parlé des choses qui les concernent, Dieu parle de parents. Honore ton père et ta mère. J'insiste directement après lui. La troisième des choses qui frappe quand il donne les décalogues, c'est que dans presque toutes les autres lois, il n'y a pas une promesse. Mais directement quand il donne cette loi, il attache à cette loi une promesse. Il ne dit pas, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, sinon je ferai ceci ou cela. Mais quand il parle des parents, il associe une promesse. Et j'aimerais dire en passant, derrière la promesse, il y a aussi la malédiction. Qu'est-ce qu'il veut dire? Si tu fais ce que j'ai dit, tu auras des choses positives. Tu ne fais pas cela, les choses négatives seront attachées à ta vie. Quatrième des choses, ces commandements, au travers des promesses attachées à son observation, nous enseignent deux vérités méconnues, pas souvent enseignées. La première vérité, c'est que la longévité n'est pas seulement liée à l'hygiène corporelle. La longévité n'est pas seulement liée à l'hygiène corporelle. Bien manger, bien dormir, ne pas manger un excès de ceci ou de cela, n'est pas lié forcément à un environnement sain. La longévité est attachée au traitement que nous accordons aux parents. Que des jeunes gens qui traversent la frontière entre la vie et la mort partent tôt parce qu'ils n'ont pas su traiter ces personnes spéciales. Nos cimetières sont remplis de jeunes gens qui n'ont pas obtempérer à cette loi. Dans la pensée de Dieu, l'homme est appelé à vivre longtemps et même à mourir rassasié des jours. J'aimerais dire à nous tous que la longévité, notre longévité, c'est entre nos mains. Aide-moi à dire à ton voisin, cela dépend de toi. Afin que tu vives longtemps. Mais deuxième chose que cette vérité, que cette loi nous enseigne, c'est qu'il y a des choses que l'intelligence et les capacités de l'homme ne permettent pas toujours d'offrir. Il dit, honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux. Le bonheur n'est pas seulement attaché à ma force, à tout ce que je fais. Et j'ai aimé en lisant la version en hébreu qui m'a beaucoup aidé, les termes heureux, tel qu'il est mentionné là, cache quelques idées. Premièrement, heureux veut dire réaliser ses rêves et atteindre un degré de satisfaction interne élevé à cause de la réalisation de ses rêves. Et Dieu veut dire, si tu honores tes parents, tu réaliseras tes rêves. Des choses que tu as, tu vas voir cela s'accomplir et tu atteindras un degré de satisfaction élevé. Deuxième chose que heureux veut dire, devenir celle ou celui qu'on rêvait de devenir. Avoir ce qu'on rêvait d'avoir en quantité et en qualité, matériellement, financièrement, socialement. Avoir l'épouse qu'on rêvait d'avoir. Avoir la femme qu'on rêvait d'avoir. Avoir les genres d'enfants qu'on rêvait. Avoir les genres de maisons. Dieu lit cela au traitement qu'on accorde aux parents. Ah, nzambe nanga ye, sokuna ye baka ndenge na kina ko bala ewasoyo. Comment as-tu traité les parents? Comme cette femme qui rentre dans mon bureau, je l'ai souvent parlé, c'est dit pasteur, je te jure, là, mon bali nanga petit frère à Satan, donc Satan puis lui après. J'ai dit mais la filiation de ton mari avec Satan, tu ne connaissais pas avant. Si tu honores les parents, tu vas devenir celui ou celle que tu rêves et tu auras ces choses que tu rêves. Troisièmement, heureux veut dire jouir d'un sort favorable, visible et palpable pour nous-mêmes, mais visible et palpable pour les autres, mais avec, j'ai aimé cet adjectif, un sort favorable, durable. En hébreu, on veut dire c'est pas comme quand on te fait goûter un bonbon, à peine tu commences à prendre plaisir et puis on te l'arrache. On te laisse consommer jusqu'au bout. Les économistes parlent de l'utilité marginale. Tu vas jusqu'au bout, au tondiambo. Et Dieu dit, si tu honores tes parents, tu jouiras d'un sort favorable, mais de manière durable. Quatrièmement, heureux veut dire être étranger à la souffrance. Souffrance morale, souffrance physique, souffrance psychique. C'est-à-dire être loin du manque, de la maladie, de l'infortune, des accidents fâcheux de la vie. Pas vivre les divorces, pas vivre les rejets, pas vivre mort d'enfant. Être étranger à la souffrance. Et enfin, heureux, dans sa racine en hébreu veut dire rencontrer la bonne fortune de manière répétée, constante sur son chemin. Qui ne rêve pas de cela? Qui ne souhaite pas vivre cela? Mais les souhaiter, c'est une chose. Mais remplir les conditions pour vivre cela en est une autre. Et par rapport à l'honneur que les enfants doivent aux parents, j'aimerais en ces jours mentionner un certain nombre de principes. J'en ai 8 dans mes notes. Je prie et j'espère que le temps va nous permettre d'aller jusqu'au bout. Les tout premiers principes, c'est que l'honneur des enfants aux parents n'est pas négociable. Ce n'est pas optionnel. Ce n'est pas si je veux. C'est un devoir. Du reste, le verbe qui est utilisé par l'apôtre Paul dans Ephésiens 6, 2, c'est un verbe à l'impératif. Honore. Tu honoreras. Une autre traduction dynamique dit, tu as l'obligation d'honorer tes parents. Cela veut dire, ça doit engager notre volonté, qui doit soumettre nos émotions, nos sentiments et notre intelligence. Quand nos sentiments ne veulent pas, vous l'obligez. Quand votre intelligence ne comprend pas, vous dites, tu dois aller dans cette direction. Deuxième principe, c'est que si l'honneur se caractérise, l'honneur envers les parents, j'allais dire, se caractérise par des bonnes manières, les bonnes attitudes, les bonnes paroles et des bons actes, ces choses sont nécessaires. Mais l'honneur dû aux parents touche cela, mais va plus loin. Elle tire sa source du cœur. C'est-à-dire, s'il doit y avoir des attitudes extérieures, des actes, ces choses extérieures doivent tirer leur source de l'intérieur. Je les respecte à l'intérieur, je les considère, alors je pose des actes à l'extérieur. Ça ne sert à rien de poser des actes à l'extérieur, mais qui n'ont pas comme base une réalité intérieure. Je parlerai un peu comme les juristes, quand ils disent lorsqu'il y a infraction, il y a trois éléments. Il y a l'élément légal qui ne nous intéresse pas beaucoup, il y a l'élément matériel, et puis il y a l'élément moral. Et cet élément moral est d'une grande importance lorsqu'il y a la loi de l'honneur, qui doit se manifester par le respect, la reconnaissance et la considération. Souvenez-vous d'Ésaïe 29, verset 13. Lorsque Jéhovah parla à son peuple, il est déçu. Non pas parce que les actes extérieurs sont posés, mais parce que ces actes extérieurs n'ont pas une base intérieure. Écoutez ce qu'il dit. Lorsque ce peuple m'honore, il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Des actes sont posés, des attitudes sont affichées, mais qui n'ont pas un soubassement. Troisième principe, c'est que l'honneur des enfants vis-à-vis des parents va au-delà du vivant de ceux-ci. En lisant Genèse au chapitre 50, verset 4 jusqu'au verset 11, la Bible nous montre cet acte ô combien important posé par Joseph. La Bible dit, quand les jours du deuil furent passés, Joseph s'adressa aux gens de la maison de Pharaon et leur dit, si j'ai trouvé grâce à vos yeux, rapportez, je vous prie, à Pharaon ce que je vous dis. Mon père m'a fait jurer en disant, voici, je vais mourir. Tu m'enterreras au pays des Canaan. Je voudrais donc y monter pour enterrer mon père et je reviendrai. Verset 9. Il y avait encore avec Joseph des chars et des cavaliers, en sorte que les cortèges étaient très nombreux. Verset 10. Arrivé à l'air d'Atad, qui est au-delà du Jourdain, ils firent entendre des grandes et profondes lamentations. Et soulignez bien, et Joseph fit en l'honneur de son père un deuil de 7 jours, en l'honneur. Mais allons plus loin, verset 11, qui ajoute, les habitants du pays, les Cananéens, furent témoins de ces deuils dans l'ère d'Atad, et ils dirent, voilà un grand deuil parmi les Égyptiens. Il ne va pas jeter le cadavre de son père. Quelqu'un dira, dépense inutile. Pourquoi ne pas utiliser ça pour les vivants? Joseph l'a fait. Nous lisons même avant, il a embaumé. Il a demandé un congé spécial, malgré le rôle important qu'il jouait auprès du Pharaon. Et bien plus encore, il accomplit les volontés d'un mort. On ne va pas l'enterrer ici. Je m'étais engagé auprès de lui. Je lui avais dit que je ramènerais son corps de l'autre côté. Mais Joseph, est-ce qu'on obéit à un mort? Il avait dit, il fit en l'honneur de son père un grand deuil. Seigneur, aide-nous à avoir les sens, les vrais sens de l'honneur. Quatrième principe. Comme en droit, les enfants honorent ou déshonorent leurs parents de deux manières, soit par commission, soit par omission. soit par des actes qu'ils posent, des attitudes qu'ils affichent, mais soit par des actes qu'ils auraient dû poser et qu'ils ne posent pas. Soit par des attitudes qu'ils auraient dû étaler, qu'ils n'étalent pas. Que Dieu m'aide, que Dieu nous aide à savoir que dans le cœur de Dieu, il y a des attentes par rapport à certaines choses que nous devons faire vis-à-vis de ces personnes qui sont nos géniteurs, nos génitrices, qui nous ont donné la vie, qui ont coopéré, qui ont travaillé avec les créateurs pour que nous puissions exister. Que Dieu nous aide à comprendre cela. Dieu ne veut pas que les enfants disent du mal des parents en leur présence, derrière leur dos, salir leur réputation, faire étalage de leurs faiblesses en public, même quand ils en ont. Il est étonnant, en lisant Genèse chapitre 9, versets 21 à 27, de voir deux attitudes affichées par deux groupes d'enfants de Noé. La Bible dit, Noé but du vin, s'enivra et s'est découvrit au milieu de sa tente. C'est une manière pudique de dire, il resta nu. Quand les gens prennent de l'alcool, à un degré élevé, ils perdent contrôle. Il s'est débarrassé de tous ses habits. Le verset 22 dit, Cham, père de Canaan, vit la nudité, vit plutôt la nudité de son père. Et il les rapporta dehors à ses deux frères. C'est la faute de Noé. Il n'aurait pas dû s'enivrer. Il n'aurait pas dû aller jusqu'à se débarrasser de ses habits. Mais voilà l'attitude de Cham ou Cam. Il arrive, non seulement il voit cela, mais il rapporte. Les contextes montrent qu'il s'est mis à décrire ce qu'il a vu. En faisant des commentaires. J'ai vu papa. Et ce que j'ai vu, je ne vous dis pas. Il a commencé à décrire. Je n'aimerais pas faire des descriptions ici. Des choses qu'il avait vues. Et il s'est mis à en parler avec légèreté. Avec mépris. Une autre version dit, il est leur rapporta avec dédain et moquerie. Le verset 23 ajoute, alors Sem et Japhet prirent les manteaux, les mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur papa. Là où Cam est venu, non seulement il a regardé, d'autres versions même disent qu'il a fait une inspection. S'il était de cette époque, il prendrait des photos qu'il mettrait sur Facebook. Mais les deux autres, ils ont appris dans quel état se trouve papa. Ils prennent un manteau, ils marchent à reculons. Il a fauté papa, il s'est comporté comme il ne se doit pas, mais nous ne devons pas aller dans la même direction que lui. Ils ont couvert sa honte. J'ai toujours été étonné par ce passage. Le verset 24, lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il ne dit pas simplement qu'il soit l'esclave, mais qu'il soit l'esclave des esclaves. Remarquez, c'est Cam qui a fauté, et la malédiction va à Canaan. Les contextes montrent que c'est Canaan qui était le fils de Cam qui a vu, et qui semble-t-il est venu dire à son père. Donc, et père et fils ont été complices d'une légèreté. Certains disent qu'il semble que c'est l'arrière-grand-parent d'une race que je n'aimerais pas mentionner ici. Certains disent, certains, j'ai dit certains disent. Mais le verset 26, il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions des Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. J'ai toujours été étonné. Bon, que Noé maudisse Cam ainsi que Canaan, je comprends. Qu'il bénisse Sem et Japheth, je comprends. Mais j'aurais voulu aussi que Dieu ne soit pas silencieux. Que Dieu s'élève et qu'il dise « Noé, yopé, sous langue qui bonani. » Sous langue qui tende pas, parce que ma cambo, t'es Noé. Dieu est silencieux. Enfant, laissez Dieu traiter avec les parents lui-même. Dieu ne dit rien du tout. Alors que tout ce qui amène même cet enfant à ne pas bien agir en amont, aide-nous à savoir comment nous comporter vis-à-vis de ces personnes. On honore les parents par commission, mais aussi par omission. Genèse 24, verset 23, nous parle de Rebecca qui a honoré ses parents par sa qualité de vie à l'extérieur. Cet homme, Eliezer, l'a rencontré au puits. Cet homme a vu un étranger qu'elle appelle mon Seigneur. Respect, bienséance. Cet homme a vu la serviabilité. Cet homme a vu la capacité à faire plaisir sans demander quelque chose en retour. Et quand cet homme a remarqué toutes ces choses, il a posé la question, de qui es-tu fille? Aide-moi en tant qu'enfant à poser des actes qui vont attirer la gloire à ces personnes qui sont nos parents. J'en ai assez des jeunes gens qui, à la fin de l'année, au mois de juillet, au mois de septembre, quand la première session est finie, ils envoient une action de grâce. Romains 8, 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. J'ai eu 47%, et singoto, et singoté, et singo. Action de grâce, malgré que c'est dur. J'ai été refusé pour la troisième fois dans une deuxième faculté. Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit béni. J'en parlerai tout à l'heure en détail. Enfin, les parents ne vous disent pas tout. Votre spécialité, c'est de venir présenter des demandes. On a dit le Minerval, c'est tel montant. On a demandé encore tel syllabus. Vous ne savez pas comment ils se battent pour réunir ces moyens. Et leur joie, c'est quand en retour, il y a un bon score. Ils oublient la peine. Mais quand quelqu'un s'est battu, semaine après semaine, payer les Minerval, mettre du jus dans vos gourdes, et vous venez, toutes choses qu'on revient de ce qui a dit. Même si cette année ça va marcher, l'année prochaine ça va marcher. J'entends une jeune fille dire à son petit frère, ça c'est vraiment toi. Dis-le-lui bien. Ainsi qu'en Samuel 17, verset 58, abonde dans le même sens. Saül est tourmenté par des esprits mauvais et on cherche quelqu'un qui doit être une réponse à ses problèmes. En Samuel chapitre 16, 17 à 18, et en Samuel 17, verset 58. Son fils a une réputation et une très bonne réputation. Apparemment même son nom n'est pas connu. Alors que l'on parle d'un problème, on propose la solution. Un homme dans le palais royal dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, le Bethléemite. Le nom de David n'est même pas cité, mais c'est le nom de son père qui est valorisé. Et voici les qualités qu'a cet enfant. Il sait jouer. C'est un homme fort et vaillant. C'est un guerrier, parlant bien et d'une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. Enfant, des fois, on ne vous demande pas trop. Donnez-nous des petites joies qui nous font du bien, qui nous console dans ces pays tellement moroses, où plein de choses nous manquons, on aimerait tellement avoir de petites joies, des toutes petites joies. Permettez que j'en parle. Mon épouse était absente. Et notre fille, qui aime bien chanter, en général, on sait qu'elle dort quand dans la maison, il y a peu de chants. Parce que ça chante partout. Dans la salle de bain, dans la cuisine. Vous savez qu'elle dort quand vous n'entendez plus la Castafiore chanter. Et on l'avait choisi pour chanter l'hymne national américain à la clôture de l'année scolaire à Tassok. C'était l'année passée, au mois de juin. Et quelques jours après, j'étais à la maison, j'ai reçu un coup de fil. Ce monsieur Roland, allô? J'ai dit oui. Le consul de l'ambassade des États-Unis. J'ai dit, ah bon? Pourquoi? On a suivi la prestation de votre fille à la clôture de Tassok et on a tellement aimé. Verriez-vous un inconvénient qu'elle vienne chanter le 4 juillet à l'ambassade des États-Unis pour la fête nationale? Normalement, j'aurais dit que oui! J'ai essayé de doser. J'ai dit, merci monsieur, on va réfléchir. C'est des petites choses comme ça qu'on vous demande. Des petites choses. Pas qu'on vienne vous dire, oh, Anazuizeni. Bakenrotika esika bagabi. Ou les petits garçons créent, papa, papa. Il y a toi la Gabi Balaxina, la télévision à Molière. T'as pas commis Mouyib, il y a Massina Kangami. Et vous voyez votre fils. Et ces jeunes n'acceptent jamais. Yon n'aime pas ça, n'a celle qui est le côté. Va plaignant, va comme ça là-bas. J'aime bien suivre ça. C'est tellement triste et j'ai trouvé un jeune qu'on a qui se faisait passer pour un musicien. Alors on lui a dit, prouve que tu es musicien. Et il a commencé. Quand David s'élève et qu'il brave Goliath, alors que l'élite d'Israël ne sait pas relever ses défis. Ceux qui ont été formés, qui ont fait toutes sortes de formations militaires, tremblent devant Goliath. Saül est étonné, on lui dit, un jeune homme spécial, un bout d'homme, qui sent encore le lait maternel parce que c'est un adolescent. Il a une petite culotte, on ne sait pas si derrière il n'y a pas un biberon. Il a quelques boutons, mais il a un courage inimaginable. Roi, tu t'imagines, quand il parlait, il disait, pas je vais essayer, il dit je vais tabasser cet homme. Lisez, David ne dit pas par la grâce de Dieu. David n'était pas un protestant. Très assuré. Et quand David est en train de s'avancer, Saül va vers Abner et dit, de qui est-il, hein, fils? Et finalement, quand lui-même David, après avoir vaincu Goliath, revient, Saül lui pose la question de qui est-il? Qui est honoré? Est-ce que c'est David directement? Dieu sait ce que Isaïe a dû ressentir. Quand chez lui à la maison, il entendait les femmes chanter, Saül a tué ses, et David a tué ses. Dieu sait ce que Isaïe a dû ressentir. Enfin, faites-nous ressentir des choses comme ça. On ne vous demande pas trop de petites choses comme ça. De petites joies qui nous font mourir avec des larmes de bonheur. J'aime souvent les dire ici, enfants, vous n'avez aucune idée, vous, jeunes filles, de la joie des parents de vous faire rentrer les jours du mariage. Il prend son plus beau costume et vous fait rentrer. Il tarde même les pas pour dire, non, non, ces instants, il veut dire comme Lamartine, autant suspend ton vol. Jeune garçon, vous n'avez aucune idée de ce que maman ressent quand il vous tient la main et vous fait rentrer à l'église. Aux réunions de famille, Andra Tchakizemi. Il faut pas qu'il y ait une jeune fille. Et puis, il est là en plein de renom. Oh, Gandimi n'a pas l'angoté. À part Ngaïa, ça va nous tourner ce soir. J'ai vu la souffrance d'un père. Sa fille est née à 17 ans, devient fille mère. À 19 ans, elle a encore un deuxième enfant. À 21 ans, un troisième enfant, mais toujours à la maison. Et vous ne connaissez pas la souffrance de ses parents, qui quelquefois sont obligés de cacher des choses et de mentir à cause de vous. Quand on vient demander, mais comment va Annie? Il ne sait pas dire, elle est enceinte. Ça pèse, c'est honteux. Cinquième principe, c'est qu'aux yeux de Dieu, la personne des parents est sacrée et doit l'être. Car comme Dieu, ces personnes sont des acteurs participants à notre existence. J'aime la considération que le fils prodigue, même tardivement, accorde à son père. Dans Luc 15, au verset 18 et 21, il place son père quasiment au même niveau que Dieu. Il dit, j'ai péché contre les ciels et j'ai péché contre mon Père. Il montre que c'est sacré. Il montre que les parents ont une grande valeur. Pourquoi les parents doivent être regardés avec respect et comme des êtres sacrés? Quelques raisons. La première, les parents non seulement ont participé biologiquement et physiquement à notre existence, mais ce sont des personnes qui nous ont aimés avant notre existence. La plupart des personnes vous apprécient après, vous aiment après. Les parents vous ont aimés, se sont attachés à vous avant votre existence. Cette maman a commencé à parler à cet enfant, a commencé à l'aimer. Elle a commencé à souffrir, à trembler quelquefois. Quand toute une journée, cet enfant ne bougeait pas, elle était dans le stress, elle courait vers son mari, chérie. J'ai l'impression qu'il y a un problème. Attachement particulier. Les autres t'aimeront hier, demain à cause de ta démarche. À cause de ta beauté. Eux, ils t'aiment sans t'avoir vu. Ils se mettent à dépenser pour toi. Et demain, quand on verra, va me prendre un verre là. Je ne suis pas votre boniche, hein. Deuxième raison qui doit faire que nous puissions respecter les parents en les regardant comme des personnes sacrées. Parce que quelquefois, ils ont prié et souhaité notre venue. La Bible parle de Anne qui a prié, « Seigneur, donne-moi un fils. Donne-moi un fils mâle. Si tu me le donnes, de jeûne et de prière. » Des heures et des heures où Pénina s'est moquée d'elle, mais elle accrochée à Dieu. Troisième raison qui fait que les parents sont sacrés et doivent être respectés. Ils ont eu à s'imposer des privations pour que nous soyons là. En général, et c'est la nature qui fait que les choses soient ainsi, les enfants ne comprennent véritablement la place et la valeur des parents que quand eux-mêmes deviennent parents. Avant, ce n'est pas évident. Même quand j'enseigne, Dieu merci, je prie que le Saint-Esprit s'en sert. Mais il y a des choses que vous ne comprendrez que. J'ai vu des enfants, quand eux-mêmes deviennent parents, ils commencent à se repentir de certaines attitudes qu'ils avaient vis-à-vis des parents qui ne sont plus là. Ils comprennent. Quand j'étais petit, je me moquais de mon père avec mon frère. J'en parlerai tout à l'heure. On l'avait même surnommé « Il n'y a pas d'argent ». Parce que des fois, même avant qu'on ait fini la demande, il répondait déjà « Papa, il n'y a pas d'argent ». Jusqu'à ce que je devienne moi-même parent et que je me rende compte que je suis un petit professeur d'économie. Et j'ai commencé à comprendre la folie des enfants. Ils ne savent pas que le papa ne touche que 500 dollars. Il y a la dîme dedans, il y a les loyers. Mais quand il y a rentrée scolaire, papa, il faut m'acheter les cash Nike. La première vient demander Nike, 400 dollars. La deuxième, papa, moi j'ai vu Adidas, papa. Et puis Adidas comme des sandales. 350. Et tu associes les demandes de 4, ça te fait 1300. C'est pour ça qu'on n'est pas étonné de voir certains papas marchands en public parler. Bon, on a reçu un gros. Ah, on ne sait pas ce qu'ils ressentent. Le problème, c'est qu'ils ne vous disent pas tout. Des fois, ils vous disent, mes filles, mes enfants, je vais me battre. Et quand ils disent qu'ils vont se battre vraiment. Cette maman qui devient enceinte et toute sa vie qui change, son nez qui augmente de volume à cause de toi. Des choses qu'elle aimait manger, elle ne peut plus manger. Et pire encore, quand le ventre commence à gonfler des positions, elle ne peut plus dormir. Elle est obligée à cause de toi. Dieu m'a fait grâce d'assister aux accouchements des 4 de nos filles. J'ai chaque fois été là. 2 fois à Kinshasa, 2 fois à Nairobi. J'ai eu beaucoup de respect pour les dames. Beaucoup de respect. Vous qui êtes enceinte ou qui étudiez, vous pensez connaître l'accouchement? Non, j'ai appris les contractions, c'est des petites douleurs espacées. Connaître cela dans les dictionnaires, c'est autre chose. Vivre et encore. Le premier accouchement, j'avais l'impression que mon cœur allait s'arrêter de battre. À un moment, j'avais l'impression que c'était déplacé, commençait à battre là. J'ai regardé cette petite dame en train de faire l'effort, j'ai dit waouh. Mettre au monde ses voisins de la mort. J'ai vu un moment, j'arrive pas à savoir comment Dieu a donné à la femme de trouver des ressources. Les médecins disent, pousse, pousse, elle n'arrivait plus. La belle Viviane était plus belle. Talamississa. J'en parlerai à la fin quand je vais conclure le comble de tout. Pour notre fille aînée, à un moment, c'était tellement difficile. Le médecin dit, pasteur, est-ce que tu vas supporter? J'ai dit quoi? Il dit, je vais faire une épisiotomie. Je vais provoquer une déchirure. Presque un couteau. Hein? Tcha! Pour que toi, tu existes. Et demain seulement, tu es en train de regarder un match. Va acheter un coca. N'en maudis rien! Tu sais un but à Messi. Quatrième chose pour laquelle les parents doivent être sacrés et respectés. Ils ont payé les prix pour notre croissance. J'ai beaucoup de respect pour les femmes. Quand un enfant vient au monde, c'est cet enfant qui dicte la vie. Tu veux dormir, tu ne pourras plus dormir. Les sommeils dépendent de bébé. Je suis fatigué, j'entends ya, ya, je suis obligé de m'arrêter. C'est réveiller pour l'échanger, pour la changer. Que dire des cas de maladie? Je me souviens, l'une de nos filles était très très malade. C'était la célèbre peur qu'on parlait de Katakata. Il semble quelqu'un qui coupait les gens en morceaux. Enfin, que personne n'a vu, mais il semble qu'il existait. Elle faisait de la fièvre, pratiquement convulsion. Je me suis souvenu que Katakata existait seulement quand on est arrivé à l'hôpital. J'ai essayé de démarrer le véhicule, ça ne démarrait pas. On est sorti, mon épouse suivait et je courais. Je n'aimerais pas citer laquelle, je sais qu'elles n'aiment pas que j'en parle. L'une de nos filles a commencé à faire des constipations fortes. On a utilisé toutes sortes de méthodes pour l'aider et ça ne marchait pas. Les femmes assez expérimentées nous ont parlé d'une méthode. Prends un bout de savon, fais rentrer. Je n'aimerais pas vous dire laquelle. N'allez pas leur poser la question aussi à la fin. Et j'ai mis ça. Et à peine j'ai enlevé. J'avais sur mon visage la pâte d'arachide. Je me suis surpris en train d'enlever ces choses nécessairement en rigolant. Elles sont assises à toi, je les entends dire, ça doit être toi. Ça, c'est le parent. Je me souviens l'une qui avait un moment les narines bloquées, elle avait un problème de respiration. On a tout essayé, le médecin a dit, il y a une méthode, il faut tirer la morve. Par les narines. Je préfère le dire en lingala. La morve en français, ça atténue mi-yo-yo. Et demain, ce même enfant prendra cette personne à la légère. La personne des parents est sacrée. Ils font tout pour vous mettre dans de meilleures conditions. Meilleur habit, meilleure école. Ils font tout ce qu'ils peuvent faire. Et la plupart des fois même au-delà. Sixième principe. C'est qu'aux yeux de Dieu, l'honneur que les enfants accordent aux parents a plusieurs formes. La première forme, c'est comment on se comporte avec eux devant eux. Comment on leur parle, comment on leur répond, comment on réagit devant eux, comment on réagit à leurs remarques, à leurs punitions. Certains réagissent avec un air effronté. D'autres, permettez-moi les termes, ils ont le culot de toiser les parents. Tu lui fais une remarque, Antolo. Enfant. D'autres, tu lui fais quelque chose, fais semblant de s'éloigner, puis dis, papa n'a pas vu, papa n'a pas entendu, mais Dieu a vu. D'autres vont jusqu'à surnommer les parents. J'étais dans une famille, la maman, on l'a surnommé l'État. L'État y est. Donc, la police. Tous les surnoms ne sont pas mauvais. Il y a des surnoms bons. Je connais dans une autre famille, leur maman prépare tellement bien. Les enfants l'ont surnommé Ndokiamalewa. Ça, c'est bon. Surnommez-moi comme ça. Un autre papa, on l'appelait Hitler. Je regarde la télé, les jambes sur la table, et, Hitler aille. Genèse 50, verset 7, nous montre combien Joseph a valorisé son père devant les pharaons. Il part du bien. Il présente. J'ai dit combien? Non, c'est l'inverse. 47
Au verset 7, Joseph fit venir Jacob, son père, et les présenta à Pharaon. Dans l'original en hébreu, il est dit, les présenta avec honneur. C'est mon père. Tout ce que tu apprécies chez moi vient de lui. Et l'autre forme que l'honneur que les enfants accordent aux parents, comment ils se comportent avec eux, loin de leur égard. Qu'est-ce qu'ils ont fait, des ordres qu'ils donnent? Qu'est-ce qu'ils ont dit d'eux entre nous? Il a dit, ne pas regarder la télé, ne pas regarder ces choses, mais quand ils tournent les dos, vous faites la même chose. Vous entendez les pas, vous changez. Dieu voit que vous ne l'honorez pas. Allez dormir, vous ne dormez pas. Mais dès qu'il vient dans la chambre, mais avant ça, il n'y avait personne qui ne dormait. Dans Matthieu 21, verset 30, la Bible nous parle de Christ qui enseigne sur deux enfants à qui il était dit, faites ceci. L'un a dit, je le ferai. Mais derrière, il n'a pas fait cela. Septième et avant-dernier principe, c'est que face à l'honneur que l'on doit aux parents, il y a deux types d'enfants. Il y a premièrement les enfants encore sous les toits paternels. Ils ont entre 0 et 25 ans, c'est-à-dire la période avant l'émancipation, par le mariage, par le travail ou par un autre moyen. Et même là aussi, j'aimerais aussi dire qu'il y a deux petites catégories. Il y a des 0 à 18 ans, dépendant totalement des parents. Et puis il y a des 18 à 25 ans qui sont à l'université. D'autres qui commencent à avoir un petit job. Tout à l'heure, avant de clore, je vais mentionner quelque chose les concernant. Mais la deuxième grande catégorie, ce sont les enfants autonomes. Déjà émancipés, déjà mariés, déjà responsables, qui se prennent en charge. Et là aussi, j'aimerais ouvrir encore, dire qu'il y a deux sous-groupes. Il y a les premiers sous-groupes, ils sont émancipés, mais ils ont des parents encore forts et productifs. Ils ont entre 25 et 45 ans, et leurs parents ont entre 55 ans et 70 ans. Certains encore forts, d'autres encore qui travaillent. Mais la deuxième catégorie dans ces deuxièmes sous-groupes, ce sont ceux qui ont entre 45, 50, 55 ans, mais qui ont des parents qui ont entre 75 et 90 ans. Des parents plus productifs, mais travaillant plus, diminués physiquement. Ces deux grandes catégories n'ont pas honoré leurs parents de la même manière. Le premier groupe, qui va de 0 à 25 ans, ils sont appelés à honorer leurs parents par l'obéissance. Respecter les horaires établi en famille. Et là, j'aimerais insister sur une petite portion. Les enfants les plus difficiles à gérer sont ceux qui ont entre 18 et 25 ans. C'est pour cela, ailleurs, quand ils atteignent cet âge, on les libère. Ils estiment qu'ils sont grands et ils ne veulent pas obéir aux ordres. Les parents difficiles à les traiter, ne pas les mettre dans les horaires de la famille, serait perdre aussi l'autorité auprès des plus petits. C'est pour cela, si vous êtes suffisamment grand, mais allez-y, quittez les toits paternels. Sinon, vous nous mettez en porte-à-faux, on souffre. Non, on me traite toujours comme un petit, j'ai quand même 19 ans. Politesse dans les langages, participation à la vie de la famille, plus l'on grandit, dresser, débarrasser la table, participer aux soins de la maison, aux tâches ménagères pour les filles, repassage, nettoyer la voiture pour les garçons. Genèse 22, verset 6, nous parle d'Abraham qui allait avec Isaac pour offrir. Et ce que j'aime, ce n'est pas Abraham qui a porté les bois. C'est Isaac qui a porté les bois. Un enfant obéissant vis-à-vis de son père. Genèse 22, verset 6. Exode 21, verset 15 à 17 que nous avons lu au départ. Nous dit, celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort. Y a-t-il déjà quelqu'un ici qui a porté la main sur ses parents? D'autres qui ont eu l'intention. Mais Mero a reçu Tchouki. D'autres ont même l'intention. Pour ça, papa. Il y a mimé dans le mouvement.
Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni des morts. J'aime 1 Samuel chapitre 9, verset 5. Ouf, donne-nous des enfants comme ça. La Bible nous parle de Saül qui est allé à la recherche des ânesses de son père. Et finalement, quand ils n'ont pas trouvé, il a obligé son serviteur d'y rentrer. Et j'aime ce qu'il dit. Parce que notre papa, ayant oublié les ânesses, commencera à se mettre en peine pour nous. Il pense à la souffrance des papas. Non, je ne dois pas rentrer si tard. Papa doit se poser des questions. Non, il m'a libéré, certes, d'aller à cette manifestation. Mais je ne voudrais pas qu'ils se disent avec l'insécurité qu'est-ce qui m'arrive. Que les enfants qui ne pensent jamais aux parents. Mais Saül a pensé à cela. Qu'est-ce qu'il va ressentir? Proverbe 20, verset 20. Dit, si quelqu'un maudit son père ou sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Une autre version dynamique dit, la lampe qui veut parler de la vie, sa vie s'éteindra comme une lampe subitement. Deuxième catégorie, ou deuxième groupe, sont des personnes autonomes. Et là, j'ai dit aussi qu'il y avait deux sous-groupes. Les parents sont encore productifs. Certes, notre responsabilité première est de prendre soin de notre famille. Mais n'est pas oublier ces hommes et ces femmes qui nous ont donné la vie. Surtout avec notre pays où les rentrées ne sont pas suffisantes. Moi, j'ai mon père, depuis que je l'ai connu, le directeur d'école primaire. Depuis que je commençais à être un peu plus éveillé. Quand son salaire a été au top, en franc congolais de l'époque, en Zaïre, nouveau Zaïre, et puis tout ce qu'on a aujourd'hui, il touchait au grand maximum 150. Aujourd'hui, quand je vois sa fiche de paie, 38 000 francs congolais. Mais je vois vers la fin, il avait encore deux de mes jeunes frères qui étaient à la maison. Ils doivent manger. Et puis avec cet argent, il doit aussi les prendre en charge. Mais Dieu nous bénissait et nous permettait d'avoir un peu plus. Ma responsabilité première, c'est ma femme et mes quatre filles. Je dois aussi jeter un coup d'œil, savoir est-ce que je peux suppléer. Comment puis-je gagner 2000 dollars, vivre ayant une poubelle où le superflu est jeté? Trois repas bien réglés. Et savoir que quelque part j'ai un parent, je ne me pose même pas la question, est-ce qu'il a mangé? Ce n'est pas notre responsabilité première, mais ce n'est pas moins notre responsabilité. J'aimerais ouvrir une parenthèse aussi que je fermerai rapidement. Christ a blâmé les pharisiens. Et là, j'aimerais insister pour les hommes hyper spirituels. Je prie que vous bénissez l'Église. Je prie que vous soyez fidèles en dîmes et offrandes. Mais je prie que vous ne puissiez jamais oublier les parents. Christ a blâmé les pharisiens en disant, vous vous dites aux gens en les libérant, de dire à leurs parents, l'offrande, l'aide que je devais t'apporter est corban. C'est-à-dire, l'aide que je devais t'apporter, je l'ai amenée à l'Église. Je l'ai amenée pour l'œuvre de Dieu. Nous retrouvons cela dans Marc 7, verset 11. Christ a blâmé cela. Il veut dire, qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit, certaines offrandes, s'il faut ne pas amener ça à l'église, mais tu fais ça pour les parents, Dieu considère cela aussi comme une offrande. Que des gens ici appellent des fonds, qui va donner 10 000. Mais papa a un petit problème de 100 dollars. Pour lui donner, c'est un problème. Et de bouche à oreille, papa apprend. Il avait demandé 100 dollars pour les soins, tu n'avais pas donné. Mais son fils a souscrit. 100 000. Alléluia. J'ai donné à l'œuvre de Dieu quand même. Notre manière de gérer ses parents, c'est les appeler de temps en temps. On est trop occupé, on a plein de choses, mais les appeler.
Aujourd'hui, il y a les téléphones, il y a plein de moyens. Leur faire plaisir, leur amener des petites choses. Mais surtout, si vous avez des enfants, leur amener les petits-enfants. Proverbe 17, verset 6 dit, les enfants des enfants sont la couronne des vieillards. Vous amenez ces enfants, ils aiment jouer avec, ça leur fait du bien. Et leur joie fera que Dieu se souvienne aussi de vous. Mais malheur, comme je l'ai dit lors de l'une des prédications ici, pour nos femmes, nos parents deviennent des sorciers. Faire leur joie par de petits cadeaux. Dans Genèse 27, verset 2 à 4, avant que son père ne puisse les bénir, il dit, voici je suis vieux, je ne connais pas les jours de ma mort. Maintenant donc je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs, chasse-moi du gibier. Mais j'aime les versets 14. Fais-moi un mets comme j'aime. Dites avec moi un mets comme j'aime. Est-ce que tu connais les choses que tes parents aiment? Fais-moi un mets comme j'aime. Apporte-les-moi à manger afin que mon âme te bénisse. C'est pas moi qui veux te bénir. Le contexte veut dire, la joie que je ressentirai va se répercuter chez toi en termes de bénédiction. Mais pour cela, tu me donnes un mets, pas n'importe lequel. Un mets que j'aime. Aide-moi à poser la question à ton voisin. Est-ce que tu connais les mets que tes parents aiment? Tu connais les genres de costumes qu'il aime porter. Tu connais les genres de chemises. Quand tu voyages, tu dis, ah! Papa, c'est un ancien fonctionnaire, lui, il aime façonnable. Il a un gros toit. J'étais un jour dans une famille, une maman parla à son fils. Mon fils, Bando, il a papa chemise, on a façonnable. Quand chacun vient, ça c'est mon fils qui m'a acheté. Mon fils. Un mec que j'aime. Je prie qu'en sortant d'aujourd'hui ici, quelqu'un ait donné à son père, à sa mère, un mets qu'il aime. Mais ces personnes aussi ont besoin de protection. Dans 1 Samuel chapitre 22, verset 3, la Bible nous enseigne, David est pourchassé par Saül. Mais j'aime ce que la Bible dit. Dès là, David alla à Mitzpé dans le pays de Moab. Il dit au roi de Moab, permets, je te prie, à mon père et à ma mère de se retirer chez vous. Jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. Il va cacher ses parents. La protection de ses parents l'intéresse. Je veux savoir qu'ils sont en sécurité. Et en terminant, je mentionne ce huitième principe. C'est qu'il y a un triumvirat. Enfants, parents et Dieu. Ce que les enfants font pour les parents, c'est que les parents ressentent Dieu réagir. Néhémie chapitre 8, verset 10 dit, la joie de l'Éternel, c'est notre force. Le contexte veut dire, quand Dieu est joyeux à cause de ce que nous faisons, Dieu nous équipe. Si vous voulez provoquer la joie de Dieu, agissez d'une certaine manière avec les parents. Avant de lancer ce triple appel, j'aimerais terminer par cette histoire. Un petit enfant de 12 ans, un jour, durant quelques semaines, il s'est souvenu qu'on les renseignait à l'école sur les droits de l'enfant. L'enfant ne doit pas être exploité. Les enfants doivent être bien traités malgré leur âge. Et, vous savez, en Occident, on a dit tellement de choses que cet enfant a eu comme un déclic dans sa mémoire. Il est allé dire à sa maman, « Maman, dans 2 jours, tu auras des problèmes avec moi. » La maman lui a dit, « Pourquoi ?» Il dit, « Tu verras. » 2 jours après, la maman rentre du travail, elle trouve un double feuillet. L'enfant écrit, point numéro 1, pour chaque fois où tu as coupé mes sommeils, pour te rendre service, entre parenthèses, non-respect du repos de l'enfant. $50. Et comme c'était 182 fois, 182 fois 50 égale 9100 si mes calculs sont bons. Deuxièmement, chaque fois que tu as interrompu mes jeux, entente à l'épanouissement de l'enfant. 105 fois x $40, 4200. Troisième point, chaque fois que tu m'as fait faire ce que tu pouvais faire toi-même, $50. Il y en a eu 420, 2100. Et quatrième point, chaque fois que tu m'as fait faire le travail d'une bonne qui devait être payée, dresser, débarrasser la table. Il dit, tu as commencé à le faire depuis que j'avais 7 ans. Aujourd'hui, j'en ai 12. J'ai bien compté, 300 fois par année sur les 365. Fois 4 ans, elle est arrivée à un chiffre. Et puis à la fin, elle met 54 000. Elle ajoute encore 3 autres choses. Et puis à la fin, elle met nota bene. Ces montants doivent être payés sous peu. Sinon, poursuite judiciaire. Payable en totalité ou en partie. Négociation possible et ouverte. La maman est venue, elle a lu. La maman est allée voir la fille et dit, demain aussi, tu auras des problèmes avec moi. Le lendemain, l'enfant est venu trouver non pas deux feuillets, mais elle a trouvé un syllabus de 20 pages. Je n'aimerais pas tout vous citer ce que cette maman a écrit. Point numéro 1. Pour tous les changements subis lors de ta grossesse, gonflement, changement alimentaire, $0. Pour les difficultés à dormir dès que ta grossesse a commencé à atteindre 4 mois, $0. Pour les gonflements de mes pieds pendant ta grossesse, $0. Pour les douleurs atroces à ta naissance, $0. Pour la déchirure au moment de ton expulsion et les 12 jours de cicatrisation où je n'arrivais plus à m'asseoir, $0. Pour toutes les fois où je devais me couper mon sommeil, soit pour te nourrir ou te changer, $0. Pour toutes les nuits d'insomnie où tu souffrais, je ne pouvais pas fermer l'œil parce que je ne voulais pas être surpris de me retrouver avec un bébé mort, $0. Pour toutes les fois où j'ai couru à l'hôpital, bravant les dangers, $0. Pour les 2 jobs que j'ai dû avoir pour te mettre dans une bonne école et t'aider à fêter tes anniversaires comme tu les désirais, $0. Pour les dettes que j'ai eu à contracter pour t'envoyer dans cette bonne école et dettes que je continue à payer encore aujourd'hui, $0. Total, $0. Et quand l'enfant a vu ça, elle est revenue vers sa mère pour lui demander pardon. Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps et que tu sois heureux sur la terre. J'ai à cœur de nous inviter à baisser nos têtes dans la prière. Notre temps est passé, on ne va pas encore les tirer en longueur. J'ai lancé 3 appels. Et nous chanterons après, garde-moi au Seigneur fidèle à toi. J'ai un prix à remporter et des victoires à gagner. Je lance ces 3 appels. Y a-t-il un enfant, tout petit, grand ou plus grand, qui veut dire Dieu m'a parlé? Je n'honore pas mes parents comme j'aurais dû. Je ne leur accorde pas la considération qu'ils auraient dû avoir. Et ce matin, Dieu m'a parlé, je me répands. Y a-t-il un enfant qui veut dire, j'ai attiré les déshonneurs sur mes parents? Ils m'en ont jamais parlé, mais j'en ai conscience. J'aimerais demander pardon à Dieu et pardon aussi à mes parents. 2e appel que j'aimerais lancer. Y a-t-il quelqu'un qui veut dire j'honore mes parents, mais je ne le fais pas suffisamment? J'aimerais monter d'un cran, aller plus loin dans cet exercice. Et 3e appel, quelqu'un qui le fait déjà bien et qui veut dire je suis encouragé. J'aimerais encore mieux le faire. J'aimerais encore plus le faire. Mais à vous 3, de ces 3 groupes, je me redis, l'humain ne peut pas faire les bonnes choses. Car la Bible dit, c'est lui qui crée en nous les vouloir et les faire. Ceux qui veulent répondre au 2e ou au 3e appel, vous vous leverez là où vous êtes, que vous soyez ici ou à l'Isanga. Mais ceux qui veulent répondre au 1er appel, c'est repentir, demander pardon. Prenez votre sac, prenez votre Bible, quel soit votre âge, avancez. Comme pour dire au Seigneur, toi qui crée les vouloir et les faire, change les dispositions de mon cœur. Alors que les cantiques jouent et que l'homme de Dieu va venir tout à l'heure prier pour clore. Garde-moi. Ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi. Ô Seigneur, fidèle à toi. Continue à venir.
Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer.
Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer.